Radio Capi. Oh, Capi. À la présentation du journal en français, Pascal Massirica.
Les titres de l'actualité, la tension est montée d'un cran à Kwamout, territoire de la province du Maïndombé, où près de 20 personnes ont été tuées hier par des miliciens Mombondo près du village de Moulounou. Annoncé par le député national Guy Moussomo, la nouvelle est confirmée par l'autorité locale. Un accord a été trouvé avec la Banque mondiale pour la poursuite des travaux et de projets après le changement intervenu au Fonds social de la République. Cet accord prévoit notamment la reprise du financement des projets de stabilisation de l'Est de la RDC et la réponse aux violences basées sur le genre. Notre invitée, c'est Madame Francine Muyumba. Cette sénatrice fait la restitution de la rencontre que le président honoraire Joseph Kabila a organisée dimanche dernier avec les élus membres du FCC autour du processus électoral en RDC. Madame, messieurs, bonsoir. La tension est montée d'un cran à Kwamout, territoire de la province du Maïndombé, où près de 20 personnes ont été tuées hier lundi par des miliciens communément appelés Mombondo près du village de Moulounou. Annonce faite par le député national Guy Moussomo, confirmée par le chef intérimaire du village de Moulounou, Alain Kobo, à Bandounouville, Irène Boma.
Ces regains d'insécurité est survenu aux petites heures de lundi à quelques kilomètres du village Moulounou situé dans le territoire de Kwamout au Maïndombé. Selon le député national Guy Moussomo, il s'agit des commerçants en provenance du village Boku qui sont allés acheter des produits agricoles au village Moulounou. En cours de route, ils sont tombés dans une embuscade l'air tendue par des assaillants armés de la milice dite Mobondo. Au moins 20 personnes ont été tuées à l'aide des armes à feu, rapporte l'élite de Kwamout.
Il y a eu des jeunes gens qui sont allés chercher leurs sacs de manioc. À leur route, ils ont rencontré les assaillants qui les ont attaqués. Ils ont placé une embuscade. Et puis, quand les jeunes là descendaient du véhicule, les Mibondo les ont tués avec les armes à feu.
Contacté à ce sujet, le chef intérimaire du village Moulou nous confirme l'information et livre le même bilan. À en croire Alain Kobo, les véhicules transportaient à son bord au moins une trentaine de personnes. À part celles qui sont tuées, les unes se sont sauvées de justesse et d'autres ont été prises en otage par ces miliciens qui ont aussi incendié les véhicules. Parmi les personnes prises en otage, il y a aussi la femme du chauffeur, a-t-il signalé. Irène Moma, Bandundouville, Radio Okapi.
On reste dans la région où le député provincial David Bisaka salue la décision prise par la CENI de reporter l'enrôlement des électeurs du territoire de Kwamout suite aux contraintes sécuritaires. David Bisaka affirme à Radio Capi que la paix n'est pas encore restaurée dans la zone où beaucoup d'habitants ont fui les assaillants. Il a été joint par Irène Boma.
La CENI ne pouvait pas enrôler avant la sécurisation du territoire de Kwamoutou. Donc nous, on ne voyait, on ne comprenait pas ce que la CENI allait faire. Donc je les remercie pour avoir écouté la voix de la société civile et des politiciens que nous sommes et de notre population. Donc nous leur avons demandé de sursoir cet enrôlement-là parce qu'on ne savait pas qui est ce que la CENI allait enrôler dans les Kwamoutou pendant que tous les natifs de Kwamoutou ne sont pas là-bas. Alors, on voyait très mal cette décision-là. Heureusement, aujourd'hui, elle se serait saisie. Donc, on est content. Nous demandons à ce que les FARDC puissent pacifier les Kwamoutou et que l'État congolais puisse remettre les peuples tekés dans leur sol. Je vous dis, les gens qui disent qu'il y a la paix dans les Kwamoutou, c'est parce que l'agresseur se retrouve maintenant sans agresser. Les Bateke ne sont pas là-bas. Bon, les Bayaka vont agresser encore qui? Les embuscades, c'est presque partout. Dans les zones là où est-ce que les Bateke sont restés, on les attaque toujours.
Autre nouvelle en plus bref, affaire Franck Diongo. Les avocats de cet opposant politique disent avoir enfin retrouvé ses traces à l'ex-Demia, 7 jours après. Ils ont été reçus ce mardi à l'auditoire général des FARDC où ils ont dénoncé l'enlèvement de leur client. Ils affirment avoir eu l'autorisation de les rencontrer demain mercredi. Pour rappel, le président du mouvement lumumbiste LMP progressiste a été enlevé depuis le 20 juin par par des hommes en uniforme armé au croisement des avenues des Huileries à Cabinda pendant qu'il revenait d'un deuil. Jusqu'ici, on ignore ce qui lui est reproché. Au Congo central, face à l'activisme des coupeurs de route sur la nationale numéro 1, le commissaire provincial intérimaire de la police nationale annonce l'installation dans toutes les zones rouges des éléments de ce corps pour traquer ces malfrats. Annonce faite hier lundi après-midi à l'issue d'une parade. Blaise Kilimba Limba est au micro de Nana Plurich Mambou.
Trois points avaient été constatés. Phénomène coupeur de route qui avait ressurgi après plus de 6 mois. Mais du coup, il y a 2 semaines passées, un cas s'est déclaré au niveau des territoires de Mbanzangungu. Les bandits se sont organisés pour couper la route et dépouiller quelques passagers. Face à ces réalités, il y a des équipes montées qui sont mises en place pour combattre et traquer les coupeurs de route. Toutes les zones rouges ont été identifiées, encore une fois. Donc, dans ces zones rouges, il y aura des prépositionnements des jeeps montés de la police. Et ceux qui sont en train de prendre cette route sont en train de constater qu'au niveau des 9 étages à Kasangulu, au niveau des Yawa, frontière entre Inkisi, Madimba et Mbanzangungu, au niveau des Chapopo, entre Kwilungongo, au niveau de l'entrée Luozi.
Retournons ici à Kinshasa où désormais tous les taxis avec vitres teintées sont interdits de circuler. C'est l'une des mesures prises par le gouvernement provincial pour faire face aux enlèvements, répétitions des enlèvements des passagers à moto ou à bord des taxis. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministre provincial de l'Intérieur pointe du doigt des personnes non identifiées. Explication de Grâce Amzati.
Dans ce communiqué, le gouvernement provincial de Kinshasa dit déplorer cette recrudescence des cas d'enlèvement qui crée insécurité et psychose dans la capitale et perturbe sensiblement la libre circulation des Kinois. Ainsi, pour lutter contre ces fléaux, il affirme avoir pris un certain nombre de mesures. C'est notamment l'interdiction des circulations des taxis avec vitres teintées, le respect de la limitation du nombre de passagers essentiellement pour les taxis et les motos, l'affichage visible par les taxis, taxibus et motos du numéro d'identification, mais aussi le signalement par les transporteurs des intrus dans leur corporation. Par ailleurs, l'exécutif provincial de Kinshasa appelle à la vigilance et à dénoncer tous les suspects et leurs complices qui s'évertuent à troubler la quiétude de la population kinoise afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Toutefois, le ministère provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice rassure quant à l'implication de tous les services de sécurité de la ville en vue de garantir la sécurité des passagers sur le trafic urbain.
Examen d'État au Nord Kivu 3. Les candidats de Ngenge et du territoire de Walikale n'ont pas passé l'épreuve hier lundi dans le groupement de Walowa Yungu. En cause, des irréguliers autodidactes mécontents de leur statut ont tout simplement saccagé les bâtiments et déchiré en même temps les cahiers d'items. Les candidats qui étaient déjà dans la salle ont fui. L'inspecteur principal adjoint parle d'un incident majeur. Jean-Baptiste Ategekimana est au micro de Denise Lukeso.
Les premiers jours de passation, le 26 juin, il y a eu l'incident majeur dans un centre d'examen d'État appelé Ngenge, où nous attendions 655 candidats qui devront participer. Mais entre eux, il y a eu des élèves irréguliers qui ont été maintenus comme des autodidactes. Ils n'ont pas été contents de cela. C'est pourquoi il y a eu ce soulèvement. Ils ont tout cassé, les bâtiments. Les candidats de ce centre ont pris fuite. Même le cahier du thème a été déchiré. J'ai informé la hiérarchie et maintenant c'est le jury national qui prendra la décision.
Et pour aujourd'hui, quelles dispositions que vous avez prises?
Nous continuons toujours d'abord l'observation. Toutefois, nous constatons qu'il y a encore quelques soulèvements qui pouvaient surgir dans ce même milieu. Nous allons délocaliser le centre. La situation sécuritaire est bien maintenue par les Ouazalendo du milieu, donc les examens auront lieu.
Notez que ce responsable de l'éducation affirme que 7 autres centres d'examen ont été délocalisés vers Sake à cause des affrontements. En Ituri, pendant ces temps, l'association des parents d'élèves salue le bon déroulement de la session ordinaire des examens d'État malgré l'insécurité qui sévit ces jours-ci dans certaines localités et les difficultés qu'éprouvent certains parents à payer les frais. Cette association affirme avoir mené une campagne de sensibilisation afin que tous les élèves passent ces épreuves. Reportage à Bounia de Martial Kizabiamongu.
D'après l'Association nationale des parents d'élèves du Congo, ANAPECO, les rapports qu'elle a reçus de ses antennes à l'intérieur de la province renseignent que ces épreuves d'examen d'État se déroulent pour le moment sans incident. Même des élèves finalistes qui ne s'étaient pas encore acquittés des frais de participation ont eu accès aux salles de classe. Elle salue les efforts fournis par l'administration militaire pour la sécurisation des centres de passation de ces épreuves. David Poutou, président de l'ANAPECO à Ituri.
On a fait vraiment le message de façon qu'on accepte tous les enfants et dans toutes les conditions où ils peuvent se retrouver.
L'inspecteur provincial de la province éducationnelle Ituri 1 indique que c'est le centre de Mandima et Mania dans les territoires de Mambasa ont ouvert leurs portes en retard suite à la dernière attaque d'ADEF à Mania. Ferdinand Bossenda rassure que toutes les dispositions sont prises pour que ces épreuves se déroulent sans incident majeur.
Dans ces traumatismes-là, les enfants ne voulaient pas venir. Après beaucoup de communiqués, tout ça, ils sont quand même revenus. On a commencé l'examen un peu tard. Mais jusqu'au moment où je vous parle, la situation est revenue normale.
43 centres de passation d'examen d'État, dont un à Kampala, en Ouganda, sont opérationnels dans l'ensemble de la province éducationnelle Ituri 1. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Économie à présent avec cette bonne nouvelle pour les bénéficiaires des projets exécutés par le Fonds social de la République démocratique du Congo. En effet, le ministère des Finances annonce qu'un accord a été trouvé avec la Banque mondiale pour la poursuite normale des projets après le changement intervenu au Fonds social de la République. Cet accord prévoit notamment la reprise du financement des projets de stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix et le projet de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre. À vous la correspondance de Sinta Bachi Zinabizana.
Cette annonce est contenue dans un communiqué rendu public le lundi 26 juin. La RDC et la Banque mondiale conviennent que le personnel technique recruté par l'ancien Fonds social de la RDC va continuer d'assurer la mise en œuvre des projets. C'est un mécanisme transitoire en attendant que le nouveau fonds social créé par ordonnance présidentielle du 28 avril 2023 soit fixé sur son sort par la Banque mondiale en tant qu'agence d'exécution des projets. Entre-temps, c'est le gouvernement à travers le ministère des Finances qui va assurer les dépenses urgentes des activités dans les zones d'intervention des projets dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Les paiements dus aux bénéficiaires commenceront au plus tard le 15 juillet 2023, précise le ministère des Finances. Une information qui devrait rassurer les bénéficiaires de ces projets. Ils avaient manifesté la semaine dernière dans les rues de Bukavu pour exiger la reprise des activités. Les contractants, pour leur part, avait adressé un mémorandum au président de la République le 7 juin dernier. Il déplorait la mise en pause de ce financement qui, d'après eux, les exposait à des conditions de vie difficiles. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Éthiopie, la présidente de la Commission nationale électorale, Madame Birtukan Mideksan, une ex-opposante emprisonnée qui était en poste depuis décembre 2018, vient de démissionner pour des raisons de santé. Le trafic est en train de prospérer au Sahel grâce aux groupes armés non étatiques qui y sont très actifs ces jours-ci. C'est ce qu'indique l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime dans son rapport annuel de 2023 qui a été publié ce mardi après-midi à Niamey. Et puis le cardinal Matteo Zuppi, envoyé du pape François pour la paix en Ukraine, se rendra demain mercredi matin à Moscou, 3 semaines après la visite à Kiev. Dans un communiqué, le Vatican annonce ce mardi que l'archevêque de Bologne et président de la conférence épiscopale italienne sera accompagné à Moscou par un fonctionnaire de la secrétaire d'État.
L'invité.
Notre invitée, c'est Madame Francine Muyumba. Cette sénatrice fait la restitution de la rencontre que le président honoraire Joseph Kabila Kabange a organisée dimanche dernier avec les élus membres du FCC autour du processus électoral en RDC. Elle s'entretient avec Michel Kifindangoy.
Sénatrice Francine Muyumba, bonjour.
Bonjour Michel.
Le président honoraire Joseph Kabila est sénateur à vie, a rencontré ce dimanche les députés et sénateurs membres de sa plateforme politique, le Front commun pour le Congo. Qu'est-ce qui ressort de vos échanges?
Le président Joseph Kabila a tout d'abord rassuré ses camarades que nous sommes et l'ensemble de ses compatriotes qu'il n'a pas abandonné la politique comme vous le savez et que son silence est une expression forte d'un homme d'État qui porte sa nation comme l'ultime de ses préoccupations. Alors, il s'adressera à la nation bientôt. Aujourd'hui, le pays est en disparition à cause du tribalisme, manque de cohésion et caporalisation des services de sécurité et de défense qui est censé travailler pour sauvegarder l'intégrité du territoire national au lieu de s'occuper des individus pour des fins politiciennes. Le président Kabila nous a également encouragés de demeurer dans la résistance contre une dérive dictatoriale, car le Congo nous appartient tous.
Et pourquoi la résistance et non l'opposition?
La résistance parce que nous sommes en face d'un régime dictatorial qui marche sur tous les principes démocratiques. Et comme vous le savez, dont les responsabilités et l'amateurisme menacent la disparition de notre nation, comme je venais de le dire tout à l'heure. Une plateforme comme la nôtre, qui avait gagné les élections législatives, ne peut pas faire l'opposition. Mais puisqu'il y a eu un coup d'État constitutionnel, nous devons résister jusqu'à ce que les vraies élections nous départagent. Car il y a eu une usurpation par corruption d'une majorité en pleine législature.
La CENI vient de convoquer l'électorat le même dimanche. Est-ce que vous vous inscrivez dans la logique du processus électoral en cours?
Nous n'avons jamais refusé d'aller aux élections. Et nous attendons les élections dans les délais constitutionnels. Mais avant, il y a des préalables. Il s'agit tout d'abord d'une CENI consensuelle, d'une cour constitutionnelle non inféodée. Et ensuite, nous avons besoin d'une loi électorale inclusive. Il faut aussi un audit externe, indépendant et rigoureux du fichier électoral. Si ces préalables ne sont pas respectés pour le FCC, il n'y aura pas d'élection.
À 5 mois de la tenue des élections, tout ce que vous revendiquez sont presque irréalisables. Vous inscrivez-vous dans une logique du glissement ou de la politique de la chaise vide comme l'a fait l'UDPS en 2006?
Michel, nous rappelons tout d'abord que le délai constitutionnel est non négociable. Si le président Tshisekedi ne parvient pas à rencontrer nos exigences avant la fin de son mandat, il devra assumer ses erreurs, comme vous le savez, en déposant sa démission à l'expiration de son mandat. Voilà pourquoi le président du Sénat aura ainsi la charge de gérer la transition jusqu'à la tenue des élections réellement libres, crédibles et démocratiques, surtout transparentes.
Mais tout de même, la Constitution ne propose pas la démission du chef de l'État à l'expiration de son mandat, mais la Constitution stipule clairement que le chef de l'État reste en exercice juste à l'installation effective du nouveau président élu.
Bien évidemment, cher Michel, en juriste que je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais une chose qu'il faut rappeler ici, nous ne pouvons pas admettre à ce qu'une situation entretenue par manque de volonté politique puisse pénaliser toute une nation. Les revendications du FCC ne datent pas d'aujourd'hui. C'est depuis 2020 que nous avions tiré la sonnette d'alarme. Je sais que vous allez faire allusion à la jurisprudence de 2016, mais le président Kabila a été buté à un cas de force majeure, à force de rechercher les consensus, comme vous le savez. D'abord avec les dialogues de l'Union africaine, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est grâce aux efforts de consensus qui nous avaient amenés au dialogue de la CENCO. C'est ce qui a amené l'opposition à la tête du pays. Si on n'aimait pas la nation, on allait imposer notre candidat à la tête de ce pays. Voilà pourquoi nous demandons au président Tshisekedi, à la fin ou à l'expiration de son mandat, de déposer sa démission pour donner la chance au pays d'avoir des élections démocratiques parce qu'il doit assumer ses erreurs. Sinon, si il avait écouté les FCC, on n'allait pas arriver là où nous sommes aujourd'hui.
Francine Muyomba, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, cher Michel.
C'était l'invitée de Radio Okapi, Madame Francine Muyumba, sénatrice, qui faisait la restitution de la rencontre que le président honoraire Joseph Kabila Kabange a organisée dimanche dernier avec les élus membres du FCC autour du processus électoral en RDC. Madame Francine Muyumba a été interviewée par Michel Kifinangoy. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. À Kinshasa, il est 18h20. Infiniment merci à Pelle Kipela Mondo et à Richard Junior Kamunga qui m'ont accompagné.